L'Église orthodoxe, aujourd'hui. Bonjour à tous.
Le 3 janvier, nous fêtons la Sainte Geneviève, la patronne spirituelle de la ville de Paris. Mais sa fête va continuer durant la neuvaine de Sainte Geneviève, une série de cérémonies, veillées et conférences organisées par la paroisse catholique de l'église Saint-Étienne-du-Mont qui se trouve à côté du Panthéon, dans le 5e arrondissement de Paris. Cette église abrite le tombeau en pierre et une petite partie des reliques de la Sainte, car la plupart ont été détruites lors de la Révolution. Trois paroisses orthodoxes de Paris ont choisi Sainte Geneviève pour être leur patronne. La paroisse francophone russe Notre-Dame Joie des Affligés et Sainte Geneviève, la paroisse roumaine Sainte Parasève Sainte Geneviève et la paroisse francophone Sainte Geneviève Saint-Martin. Chaque année, à l'occasion de sa fête, la Sainte patronne de Paris rassemble autour de son tombeau des chrétiens catholiques et orthodoxes pour prier ensemble devant ses reliques. J'ai demandé au Père Noël Tanazac, le recteur de la paroisse francophone Sainte-Geneviève-Saint-Martin à Paris, de nous parler de la vie de Sainte-Geneviève.
Sainte-Geneviève de Paris, il faut dire d'abord qu'elle est une des plus grandes saintes de l'Église de France et de l'Occident. Et en fait, je pense que l'avenir révélera qu'elle est aussi une grande sainte de l'Église universelle. Alors, ce qu'on peut dire en résumé d'elle, c'est une femme qui a vécu pratiquement pendant tout le 5e siècle. Elle est née au ciel au début du 6e siècle. C'est donc la période la plus tragique, on pourrait dire, de l'histoire de l'Occident. C'est dans les années 405-406, le déferlement, l'invasion des peuples qu'on appelle les barbares, qui vont submerger l'Empire romain et qui vont, disons, assez rapidement détruire l'Empire romain d'Occident, alors que l'Orient va se relever et devenir l'Empire byzantin. Donc c'est une période absolument tragique, et c'est aussi une grande période de développement et d'éclosion du christianisme en Occident, dans le monde entier. Et donc c'est une femme qui a sauvé la ville de Paris, donc c'était la ville gallo-romaine de Lutèce, mais qui va commencer à prendre le nom de Paris très rapidement. Au Bas-Empire, la plupart des villes de la Gaule vont reprendre le nom de la tribu, et donc on va passer de Lutèce à Paris, la ville des Parisiens. Elle a sauvé Paris en 451 des armées d'Attila, des armées des Huns. C'est un événement très important. L'autre événement très important, c'est qu'elle sera en quelque sorte une sorte de conseillère spirituelle, conseillère chrétienne du roi Clovis, le premier roi de la France. Voilà les deux événements très importants de la vie de Sainte-Geneviève qui font qu'elle est un très grand personnage de l'histoire de l'Église, mais qu'elle est aussi un grand personnage de l'histoire de France. Alors, je vais reprendre quand même un tout petit peu sa vie. Contrairement à une légende, elle n'est pas une personne de petite extraction, elle n'est pas une personne du peuple, elle n'est pas du tout une bergère. Ses parents sont des gens aisés, probablement de l'aristocratie gallo-romaine. Ils habitent Nanterre, qui est un petit port au bord de la Seine, pas très très loin de Paris. Alors, il se passe quelque chose d'important dans sa jeunesse. Elle était très connue pour être une enfant pieuse, qui allait souvent à l'église, une chrétienne convaincue. Et puis, la rencontre importante de sa vie, ça sera avec Saint-Germain d'Auxerre. Saint-Germain d'Auxerre, c'est un très grand évêque gallo-romain. Pourquoi est-ce qu'elle le rencontre? C'est parce que Germain a été appelé à l'aide par le clergé de la Grande-Bretagne, donc c'est l'Angleterre actuelle, parce que à cette époque-là, au début du 5e siècle, il y a une hérésie importante, qui est l'hérésie pélagienne. L'hérésie pélagienne qui niait la nécessité de la grâce et la nécessité du baptême. Alors, Germain et son ami et disciple, qui est Saint-Loup de Troyes, donc, vont en Grande-Bretagne, c'est dans les années à peu près 429, et ils passent à Nanterre, et là, ils rencontrent cette petite fille. Et alors, c'est une rencontre tout à fait extraordinaire, parce que la Vita, qui a été écrite pas très longtemps après la mort de Sainte-Geneviève, dans les années 518, la Vita nous dit que Germain a eu immédiatement la conscience de ce que cette petite fille deviendrait un très grand personnage et deviendrait une sainte. Et Germain dit à ses parents, quand cet enfant est né, les anges se sont réjouis dans le ciel. C'est tout à fait remarquable. Alors il y a un dialogue très intéressant entre Germain et la petite fille. Et au fond, cette petite fille qui doit avoir entre 7 et 9 ans prend l'engagement de consacrer sa virginité au Christ et au fond de devenir moniale. Et Germain lui remet au cou une petite monnaie qu'il trouve au pied de la petite fille. Et sur cette monnaie, il y a soit la croix, soit le chrisme. C'est une monnaie chrétienne. Il lui donne et lui dit « Ne porte plus jamais aucune parure du monde ». Donc ce jour est un jour très important, c'est l'engagement réel de la petite fille. Alors la petite fille devient grande, ensuite elle devient réellement moniale, elle est bénie dans la vie monastique par l'évêque de Paris dont on ne connaît pas le nom, puis ensuite ses parents meurent, elle vient s'installer chez sa marraine dans Paris et la marraine habite juste à côté de la cathédrale. La cathédrale s'appelle à l'époque Saint-Étienne. Ensuite la marraine va mourir donc et Sainte-Geneviève va vivre très très longtemps à cet endroit. Sainte-Geneviève vit dans une cellule et elle a une vie tout à fait extraordinaire. C'est une vie de jeûne et de prière. Entre de 15 ans jusqu'à peu près 50 ans, en fait, elle jeûnera toute la semaine sauf deux jours. Elle ne mangeait que le jeudi et le dimanche et elle mangeait uniquement des fèves et un petit peu de pain. Donc c'est une très très grande ascète. Elle prie énormément. Pendant tout le carême, le grand carême, elle est entièrement enfermée dans sa cellule. Donc après la fête qu'on appelle en Occident de l'épiphanie, c'est la fête de l'adoration des mages, jusqu'au jeudi saint, elle est entièrement enfermée dans sa cellule. Et là, elle a le don des larmes. C'est-à-dire que dès qu'elle commence à prier, le Saint-Esprit lui donne les larmes. Et Saint-Germain d'Auxerre, lors de son second passage à Paris dans les années 447, alors que les Parisiens calomniaient Sainte-Geneviève, parce que les gens sont souvent méchants, il a montré aux Parisiens le sol de la cellule de Geneviève, qui était complètement humide, il était arrosé par ses larmes. Donc c'est une femme d'une très très grande prière, une femme extrêmement mystique, une femme qui fait de très grandes ascèses, et Dieu lui donne de pouvoir faire beaucoup de miracles. Elle a le don de lire dans les âmes, c'est-à-dire qu'elle lit les pensées des gens dans leur cœur, elle leur dévoile quand c'est nécessaire, elle guérit beaucoup de malades, elle ressuscite des morts, elle donne des conseils spirituels, enfin c'est une femme tout à fait extraordinaire. Le grand événement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que dans les années 451, les armées d'Attila envahissent la Gaule, elles pillent de nombreuses villes, dont la ville de Metz, qui était une ville gauloise très importante, et puis elles s'approchent dangereusement de Paris. D'ailleurs, tout le monde a peur, et tout le monde veut fuir. Alors, les hommes disent, bon, il faut prendre nos affaires et on s'en va, parce que Attila va venir et il pillera la ville. Alors, Geneviève, qui avait été avertie intérieurement, en esprit, que Paris serait épargné, Sainte Geneviève rassemble les femmes dans le baptistère de l'église, et elle dit aux femmes, non, il ne faut pas faire vos bagages, il ne faut pas s'enfuir. Dieu préservera Paris, on doit se rassembler dans le baptistère et on doit jeûner et prier. Alors les femmes pieuses sont avec Geneviève dans le baptistère et elles prient, alors que les hommes, disons, font des rodomontades, voyez. Et les hommes sont tellement méchants qu'ils disent « tu n'es qu'une fausse prophétesse » et ils veulent la noyer. Vous voyez, ça sera une constante de la vie de Sainte-Geneviève qu'elle sera incomprise par son milieu et au fond persécutée. Alors, on ne va pas la noyer. Les femmes sont avec Geneviève, on prie, et Attila change brusquement de cap, et au lieu de se diriger vers Paris, il se dirige vers Orléans, et Paris est sauvé. Voilà, c'est une chose tout à fait extraordinaire. Donc, elle a vraiment sauvé Paris de la destruction par sa prière et par son courage. Toute sa vie, Geneviève sera une femme de courage. On peut dire, c'est une grande dame. Geneviève, c'est un chef. Elle est vraiment une aristocrate. Elle est une femme de commandement, une femme de tête. Et elle saura tenir tête aux hommes. Et dans cette société, la femme n'était rien. Elle saura tenir tête aux hommes. Et aussi tenir tête aux rois, aux puissants et aux clergés. Et presque toute sa vie, à la fois elle donnera des conseils, elle ira aussi reprendre les grands. Par exemple, elle ira reprendre le clergé parisien parce que le tombeau de Saint-Denis, qui se trouvait à Cateuil, Saint-Denis, c'est le grand martyr parisien du IIIe siècle, qui était décapité avec rustique et de terre, elle ira dire au clergé, mais c'est honteux, la tombe de Saint-Denis est en train de se dégrader. Et alors elle va obliger le clergé à construire une basilique. Ce sera la première basilique de la ville qui deviendra Saint-Denis. C'est une femme vraiment de caractère. Et elle donnera des conseils à Clovis, parfois elle le reprendra. Et alors bien sûr, elle est très amie avec la femme de Clovis, qui est la reine Clotilde, qui deviendra Sainte-Clotilde. Alors, les Francs vont d'abord assiéger Paris, puisque les Francs étaient dans le nord de la Gaule. Il y aura une famine dans Paris. Sainte-Geneviève va affréter une flottille d'à peu près 13 ou 14 bateaux. Et elle ira en Brie, et elle ira jusqu'en Champagne, vers Arcis-sur-Aube. Et alors, elle va ramener 13 bateaux de blé qui vont sauver Paris de la famine. Alors, je laisse un peu cet événement-là, mais qui est important, parce que dans les prières liturgiques dédié à Sainte-Geneviève, on insistera sur le fait qu'elle donne des pains aux pauvres. C'est parce qu'elle a sauvé Paris de la famine. Elle distribuera des pains aux gens qui meurent de faim. Après, bien sûr, les Francs sont victorieux. Clovis installe son trône principal à Paris et Geneviève fait partie, disons, des intimes de la cour royale. Elle aura un rôle très important et certainement elle est pour beaucoup dans la conversion de Clovis à la foi chrétienne. Clovis était un païen. C'est très important de s'en souvenir. La plupart des peuples barbares qui ont envahi l'Europe occidentale étaient des chrétiens hérétiques, c'était des chrétiens ariens, comme par exemple les Wisigoths, mais les Francs, eux, étaient des païens. Et par Clovis, les Francs vont être convertis au christianisme orthodoxe. Donc c'est très important dans les années 493-496, la date officielle du baptême de Clovis c'est 496, et bien ce peuple franc va devenir un peuple chrétien, mais chrétien orthodoxe, alors que les autres barbares sont des ariens. Geneviève joue un rôle extrêmement important dans la conversion de Clovis. Alors, ça, c'est les événements les plus importants de sa vie. On pourrait aussi mentionner qu'elle avait une grande vénération vis-à-vis des saints. Elle avait, par exemple, une grande vénération vis-à-vis de saint Martin, qui est probablement le plus grand saint de la Gaule et le plus grand saint de la France. Elle fera un grand pèlerinage à Saint-Martin. Elle va guérir énormément de possédés, de malades. Elle va faire beaucoup de guérisons. Elle avait bien sûr une grande vénération pour Saint-Denis. C'est elle qui a, on va dire, relancé le culte de Saint-Denis. Et elle est très intime des saints. Voilà, ça c'est une chose qui est importante. Et dans la dernière partie de sa vie, bon, Saint Germain d'Auxerre était né au ciel en 448. L'homme qui sera le plus important, qui sera un peu son second père spirituel, c'est Saint Rémy de Reims. Et une fois par an, il fera le voyage à Reims pour aller voir son père spirituel, Saint Rémy, qui a baptisé Clovis. Voilà, tous ces grands personnages saints de la Gaule se connaissent et sont en relation les uns avec les autres. Donc elle vénère beaucoup les saints, elle accomplit énormément de miracles, elle ressuscitera de nombreuses personnes, dont un petit enfant qui était tombé dans un puits, elle fera jaillir une source dans la forêt de Séquigny, qui deviendra ensuite Sainte-Geneviève-des-Bois, et elle guérit énormément de malades, et à cette époque il y avait beaucoup de ce qu'on appelle des énergumènes, des gens qui sont à la fois des malades psychiques et aussi un peu possédés. Et donc, elle va aussi délivrer énormément d'énergumènes. Alors, voilà un peu tout ce qu'on peut dire de sa vie. Et puis, j'ajoute aussi ceci, parce que ça se voit dans l'iconographie de Sainte-Geneviève, c'est qu'elle avait une grande force contre les démons, comme un certain nombre de saints. Et il y a une chose tout à fait spécifique de Sainte-Geneviève, c'est qu'on raconte que plusieurs fois, un cierge allumé qui était éteint s'est rallumé de lui-même dans sa main. Et on la voit dans beaucoup d'icônes avec un cierge allumé.
De la cause de moi.
samedi le 7 novembre, dans la cathédrale roumaine de Saint-Archange de Paris, a commencé le 10e congrès de NEPSIS, l'association des jeunes de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale. J'ai participé en novembre 1999 à la fondation de l'association NEPSIS dans une petite salle prêtée par la paroisse orthodoxe russe Saint-Séraphin de Sarov à Paris. Au congrès anniversaire de 10 ans de NEPSIS, la cathédrale roumaine de Paris était remplie de plus de 130 jeunes, des Roumains, mais aussi des Français et des Suisses, venus de France, Italie, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Angleterre, Irlande et Roumanie. Tous les évêques de la métropole ont été présents. Le métropolite Joseph et son vicaire, l'évêque Marc, l'évêque Silouan d'Italie et l'évêque Timothée d'Espagne et du Portugal. L'invité du congrès a été le père Siméon Kosek, le supérieur du monastère orthodoxe en Silouan, situé près du Mans. Après la célébration d'Antédéum le matin, le père Siméon a donné une conférence sur le thème « Adam, où es-tu ? La thérapeutique du péché ». Le congrès a été couronné dimanche le 8 novembre par la divine liturgie célébrée par Mgr Joseph à l'occasion de la fête patronale de sa cathédrale, les saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël. L'après-midi, le métropolite Joseph s'est entretenu longuement avec les jeunes participants. À la fin du congrès, j'ai demandé à Mgr Joseph, le métropolite de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale, de nous parler de l'importance de cet événement.
Nous avons eu l'anniversaire de 10 ans depuis que NEPSIS a été créé. NEPSIS, c'est le mouvement des jeunes de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale. Un mouvement qui est né à Paris il y a 10 ans, en 99. Cette association des jeunes, ce mouvement, comprend les jeunes de 3 éparchies qui relèvent canoniquement de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale, l'archevêché d'Europe occidentale, l'éparchie ou l'évêché orthodoxe roumain d'Italie et l'évêché orthodoxe roumain pour l'Espagne et le Portugal. Comme dans tous ces pays vivent énormément de jeunes roumains, nous avons pensé fédéraliser ces mouvements de jeunesse et nous avons trouvé comme occasion cet anniversaire pour créer, si on peut dire comme ça, une sorte de fraternité NEPSIS de la jeunesse orthodoxe roumaine ou de la jeunesse orthodoxe de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale. Nous avons fait un bilan de ces 10 ans passés ensemble par les jeunes et nous avons constaté bien sûr beaucoup de belles et bonnes choses qui ont été faites, mais en même temps les manquements, toutes les actions et les choses que nous avons manquées durant ces 10 années. Mais ce qu'il y a de positif, c'est le fait que nous avons eu des pèlerinages en Roumanie et dans d'autres pays de l'Europe. Nous avons eu beaucoup de conférences organisées par les jeunes, mais nous n'avons pas très bien rempli cette tâche du relationnel entre les jeunes. Donc la relation entre les jeunes ne s'est pas faite comme nous l'avons pensé, surtout dans les premières années. Une amélioration, nous avons constaté ces dernières 3 années. Et déjà en 2010, nous partons sur d'autres bases avec des projets concrets, des congrès qui se tiendront chaque année, l'année prochaine à Rome, dans 2 ans à Madrid, après à Londres et ensuite à Bruxelles. Nous sommes partis sur des années thématiques. Une année, la connaissance de l'histoire du christianisme et de l'Église orthodoxe universelle. Une autre année, la connaissance de la Bible et de l'archéologie biblique par des pèlerinages aussi à Jérusalem. Une autre année, la connaissance des pères de l'Église. Et tout cela, toutes ces années thématiques seront développées dans chaque ville, chaque paroisse où le groupe des jeunes NEPSIS développe des activités. Nous avons pensé comment coordonner cette activité missionnaire, on peut dire, de NEPSIS. Et bien sûr, nous avons réfléchi à la manière de transmettre la foi autour de soi, transmettre l'évangile et la foi chrétienne autour de soi dans les cercles proche de l'Église, aux enfants, aux générations suivantes, mais aussi la mission auprès de ceux qui sont baptisés, mais qui perdent la fréquentation de l'Église peu à peu pendant l'adolescence et après pendant la jeunesse. Nous sommes très attachés à l'idée que chacun d'entre nous est un apôtre du Christ et que chacun d'entre nous doit présenter, doit parler de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui, là où il travaille. Surtout que beaucoup de ces jeunes sont très titrés, on peut dire, ils font des études très poussées, ils travaillent souvent comme médecin, comme ingénieur, informaticien, comme professeur, comme psychiatre, psychologue, mais aussi comme ouvrier, simple ouvrier. Dans tous ces milieux, chacun d'entre nous doit apporter un message du Christ, un message évangélique, tel qu'il peut le faire. Donc nous sommes très attachés à cette idée d'apostolat laïque, d'apostolat de la jeunesse dans le monde d'aujourd'hui.
Monseigneur Joseph, il y a 10 ans, l'association NEPSI s'était fondée dans une petite salle prêtée par la paroisse orthodoxe russe Saint-Séraphin de Sarov à Paris. Et voilà qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, le congrès a lieu dans la cathédrale orthodoxe roumaine de Paris. Et il y a plus de 120 jeunes qui ont rempli l'église pendant cet week-end. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette évolution extraordinaire qui s'est passée pendant les 10 ans?
Cette évolution dépasse l'histoire de NEPSI, mais en tout cas, notre cathédrale orthodoxe roumaine de Paris a une très belle histoire derrière elle, commençant au XIVe siècle quand cette église a été bâtie, après au XIXe siècle en 1882 quand cette église a été achetée par l'église orthodoxe roumaine par le biais du royaume de Roumanie de l'époque. Le roi Carol Ier a acheté cette église pour l'église orthodoxe roumaine. L'histoire de cette communauté de Paris très ancienne, cette communauté qui commence justement avec les jeunes, parce qu'au XIXe siècle, on avait plus de 400 étudiants roumains à Paris, à la Sorbonne. Donc cette communauté même commence avec les jeunes. C'est les jeunes qui ont mis les bases, qui ont fait les premiers pas communautaires pour cette paroisse et cette église emblématique pour nous ici à Paris, en Occident en général. C'est, moi je dirais, la providence qui fait qu'aujourd'hui, en fêtant les 10 ans de NEPSI, on les fête ici dans la cathédrale qui pendant 60 ans ne relevait pas canoniquement de l'église orthodoxe roumaine, mais qui aujourd'hui en fait partie et relève canoniquement de celle-là. Justement, j'ai parlé aux jeunes du fait que de cette église sont partis dans les années 50 pour Genève, un groupe de 3-4 jeunes à l'époque, Casaban, Sfințescu, Nacu, qui avec le père Jean Mayendorf, le père Schmemann, fondaient à l'époque la Fédération orthodoxe, fédération ou une sorte d'association internationale pan-orthodoxe de la jeunesse, Sindesmos, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai encouragé, je pense, les jeunes à s'investir dans quelque chose qui, voilà, fait histoire de fait, et que dans cette église, en fêtant les 10 ans c'est la providence, puisque le mouvement Syndesmos, le mouvement international pan-orthodoxe, est né aussi par la contribution des jeunes qui sont partis de cette église et parmi lesquels deux vivent encore, M. Kazaban et M. Narko. D'autant plus que cette église si ancienne ici à Paris, dans le quartier latin, a reçu aussi cette belle et très riche fête saints archanges, trois saints archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. On a travaillé, je peux dire, pendant cette fin de semaine, les conférences, la rencontre, les discussions, la liturgie aujourd'hui, les discussions de l'après-midi. Nous avons travaillé sous la protection des saints archanges, qui sont en général les protecteurs de l'Église, et bien sûr les protecteurs des jeunes, les protecteurs de tous ceux qui s'engagent pour la bonne nouvelle, puisque l'archange Gabriel est le symbole de la bonne nouvelle, celui qui porte la bonne nouvelle à la Vierge Marie, et bien sûr à travers la Vierge Marie à toute l'humanité, le fait que le Christ, le Fils de Dieu, va naître de son sein.
Monseigneur Joseph, il y a 10 ans, c'était le père Simeon du monastère Saint-Silouan, près du Mans, qui était invité pour donner une conférence à l'occasion de la fondation de l'association Nefsis. Et voilà, maintenant, 10 ans plus tard, c'est toujours lui qui vient. Et on observait qu'à côté des jeunes roumains venus de divers pays d'Europe, il y avait des jeunes orthodoxes français, suisses. On a vu à d'autres occasions aussi des Anglais, des Grecs, même des autres origines. Comment appréciez-vous cet esprit d'ouverture d'une association qui est l'association de la métropole orthodoxe roumaine en Europe occidentale?
Mais cette association, ce mouvement des jeunes n'était pas que roumain à la base, il était franco-roumain, on peut dire, puisque est né à Paris, il y avait des jeunes français et roumains orthodoxes de notre métropole. Et beaucoup parmi ces jeunes étant nés ici en France, ils sont français. Mais c'est dans notre esprit, dans notre, on peut dire, mission chrétienne et évangélique, cette ouverture. Et moi-même, j'ai invité les jeunes à l'ouverture, à l'universel, montrer que l'évangile, la foi chrétienne, est une foi universelle qui s'adresse à tous les gens, à tous les peuples, et à l'âme humaine par excellence, donc à tout homme. Moi, j'ai donné justement cet exemple du Syndesmos pour les inviter à rester dans cet esprit d'ouverture, que les jeunes, à travers les âges, à travers les époques, ici à Paris et dans tout l'Occident, mais surtout à Paris, à Londres, à Genève, ces jeunes ont pu consacrer comme esprit véritable d'une jeunesse croyante, d'une jeunesse chrétienne qui confesse la foi chrétienne orthodoxe, donc la bonne et juste foi sur le juste et bon chemin, rester dans cet esprit d'ouverture et prêcher, transmettre au monde par leur vie, par leur ouverture, la vérité du Christ.
Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui.
Les chants liturgiques ont été interprétés par les moines du monastère Simonos Petra au Mont Athos et du monastère Saint-Antoine-le-Grand dans le Vercors, les chorales Saint-Jean d'Amasène de Paris
et Stavropoléos de Bucarest. Le réalisateur de l'émission, Bogdan Florin Vlaicu, vous souhaite une bonne semaine emplie de joie spirituelle et vous donne rendez-vous durant toute la semaine sur la rubrique podcast audio du site internet orthodoxie.com.